Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Parole aux auditeurs, un espace d'échange entre les Congolais sans distinction, où qu'ils soient sur la planète Terre. C'est jeudi 11 février 2010. Parole aux auditeurs s'intéresse au secteur économique. Nous parlons du franc congolais. Si vous le savez, le franc congolais est en concurrence sur le marché avec d'autres monnaies étrangères, surtout dans les zones frontalières. En exemple, les shillings ougandais en province orientale, les kwacha zambiens et les shillings tanzaniens au Katanga, les kwanza angolais au Bas-Congo, les francs CFA à l'Équateur et aussi dans la province de Bandundu. Sans parler du dollar américain qui est devenu la sœur jumelle du franc congolais sur le marché. Parole aux auditeurs à deux questions principales pour le débat avec vous. Quelle est la situation du franc congolais dans votre zone? Et selon vous, que faut-il faire pour valoriser notre monnaie nationale? Rappelons par ailleurs que le gouverneur de la province orientale, Médard Aoutaïa Senga, a annoncé il y a quelques semaines à Bounia la décision interdisant l'utilisation du shilling, la monnaie ougandaise, pour le paiement de toutes taxes de l'État congolais dans les territoires d'Arou et d'Emagi en province orientale, bien sûr. Vos réactions, points de vue, propositions sont les bienvenus dans cette émission. Et pour en parler, nous allons recevoir tout de suite dans ce studio M. Tati Sungani, qui est analyste socio-économique. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous. Parole aux auditeurs aujourd'hui, Marie-Chantal Lumba et Clovis Wara. Et Clovis Louboula à la réalisation et contact avec les auditeurs, la mise en onde assurée par Jean-Claude Nsiala. Bienvenue à tous.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081-99-77-800 par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Comme je le disais il y a quelques minutes, c'est jeudi, Parole aux auditeurs se penche aujourd'hui sur le franc congolais qui est en concurrence sur les marchés avec d'autres monnaies étrangères, surtout dans les zones frontalières. Nous avons pris un exemple quelques localités comme Kasumbalesa, Sakania ou Katanga avec les kwacha zambiens et shilling tanzaniens. Il y a aussi Zongo et Yakoma à l'Équateur avec le franc CFA et Yakwamouche dans la province de Bandundu. Les francs CFA bien sûr, hein. On peut aussi citer d'autres exemples dans la province du Bas-Congo avec les coins angolais dans les localités des Yema, Lindou, Soyo et Moanda. Que faut-il faire? Quelles sont vos propositions pour valoriser la monnaie nationale? Et quels sont les témoignages par rapport à cette matière? Vos auditeurs, vous êtes très nombreux à s'être inscrits ce matin. J'étais en train de les dire que tout de suite là, notre invité va faire son entrée dans ce studio. Il s'agit de M. Tati Sungani, qui est notre analyste socio-économique, spécialiste en économie bien sûr. Mais en attendant, nous avons quelques auditeurs qui sont déjà en ligne, comme Blanchard, qui nous appelle de Mandakia dans la province de l'Équateur et Benjamin qui est à Isiro en province orientale. La réalisation me fait signe que notre invité, M. Tati Sungani, est au téléphone en attendant bien sûr qu'il fasse son entrée dans ce studio. On pourra le prendre. Mais Blanchard, vous êtes en Mandakia à l'Équateur. Blanchard, on vous écoute. Nous parlons de la concurrence du franc congolais avec d'autres monnaies, les monnaies étrangères, surtout dans les zones frontalières. Est-ce que vous connaissez cette situation en Mandakia, Blanchard?
Oui, bien sûr, nous connaissons ce problème ici à Mandaka. Alors là, je voudrais dire que le franc congolais a vraiment totalement perdu sa toute valeur qu'elle avait dans les périodes jadis là à cause de la valorisation de la monnaie étrangère qui n'est rien d'autre que le dollar.
Blanchard, vous dites qu'en Mandaka, vous n'avez pas la monnaie étrangère que vous avez en Mandaka, c'est les dollars, c'est ça?
Oui, c'est ça, les dollars qui a vraiment la primaire sur les francs congolais.
Et Blanchard, quelles sont vos propositions s'il faudrait aujourd'hui valoriser le franc congolais en Mandaka? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Blanchard?
Oui.
Désolé pour Blanchard, pendant qu'il voulait donner ses propositions par rapport à la valorisation du franc congolais, et là on l'a perdu, on a eu des problèmes de ligne avec Mandaka, on rejoint Benjamin qui est à Issur en province orientale. Benjamin, bonjour.
Merci, bonjour, merci pour la parole accordée.
Blanchard de Mandaka, lui, il a parlé des dollars qui a la primeur sur le franc congolais en Mandaka, mais nous parlons d'autres monnaies des pays africains, par exemple, dans les zones frontalières haïtiennes. Ou est-ce que vous avez aussi la circulation d'une autre monnaie en dehors du dollar, bien sûr?
Non, ici, à Issyro, on n'a pas autre circulation de monnaie sauf dollar. Maintenant, à Kita, Issyro, pour se diriger peut-être vers Ariwara, Durbalaba, il y a autre monnaie qui domine, par exemple, le shilling des Ougandais, ça, je voulais aussi les dollars.
Oui.
Ça, il n'est pas très total sur notre franc congolais.
Oui, Benjamin, à Ariwara, vous parlez du shilling, de qu'est-ce que vous faites? Vous achetez les biens de première nécessité en shilling et on vous remet aussi les shilling, c'est-à-dire que c'est vous, ce sont les Congolais qui font des transactions en shilling du côté d'Ariwara, c'est ça, Benjamin?
Oui, c'est ça, à Ariwara, il n'y a pas autre monnaie, le franc congolais n'a pas de portage, n'a même pas de valeur. Et puis je me demande si le gouvernement, qu'est-ce qu'il voit pour cela?
Quelles sont les conséquences? Est-ce que vous avez des conséquences quotidiennes sur vos achats, par exemple sur les transactions? Est-ce que vous avez l'influence des shillings sur votre vécu quotidien?
Oui, ça, on en a beaucoup. Par exemple, si quelqu'un quitte la ville d'Issyro pour se diriger à Ariwara, il va arriver quelque part, il faut qu'il fasse l'échange des francs congolais à shilling. Tout ça, ça coûte pas ça, on peut voler votre argent. Arriver là-bas maintenant, les francs congolais n'ont plus de portage.
Benjamin, vous dites qu'il faudrait que le gouvernement puisse prendre des mesures. Hein. Vous vous plaignez que des fois, quand vous faites des transactions d'échange pour avoir les shillings, des fois vous perdez la monnaie et vous sentez que le franc congolais n'a plus de valeur quand vous arrivez à Ariwara. Merci Benjamin de votre témoignage et surtout de votre proposition par rapport à ce que le gouvernement doit faire. Simeon, vous êtes à Kikwit dans les bandes de Simeon. Bonjour. Simeon, bonjour.
Oui, je suis à l'écoute. Hein.
On vous écoute. Vous avez suivi Benjamin qui est à Ariwara et lui, il a parlé des shillings ougandais qui est en concurrence avec le franc congolais et il interpelle le gouvernement à valoriser plus le franc congolais dans cette zone-là. Vous êtes à Kikwit. Qu'est-ce que vous proposez pour valoriser le franc congolais dans les zones, par exemple, comme dans les Bandundu à Kwamout où la population aussi consomme les francs CFA à Simeon?
Oui, mon avis serait ainsi. Moi, je dirais que je veux dire que ce manque, ça pourrait aller au manque de ressources de l'État, parce que j'étais encore retourné dans les années 70 et quelques, je pense encore, où un dollar valait à un Zaïr, parce que si notre monnaie équivalait au dollar à ce moment, parce que nous, on avait sur le terrain des fonds de production, on produisait quand même, que ce soit le produit agricole, que ce soit le secteur minier, avec une contrôle là très bien, mais aujourd'hui, on sait que si les deux choses sur le terrain, rien ne vale, comme il faut. C'est ce que moi je dis, c'est vraiment une négligence de la part de l'État.
Simeon, vous dites que c'est une exigence de la part de l'État et vous conseillez le renforcement de l'autorité de l'État dans toutes ces zones-là pour que la monnaie nationale puisse avoir de la valeur. C'est ça, Simeon?
Pardon?
Vous proposez le renforcement de l'autorité de l'État, c'est ça?
Oui, il faut qu'il y ait le renforcement dans les processus. Donc l'État doit quand même exiger à sa population d'utiliser son chantier de monnaie. Alors, quand on produit beaucoup, on exporte beaucoup, notre revenu, ce serait les dollars. Alors, quand il y a trop de dollars sur le terrain, là, notre pas gagne quand même sa valeur. Mais quand on trouve sur le terrain, il y a que les dollars qui dominent. Et là, c'est nous, comme je venais de dire, c'est, on exporte rien, on produit rien. Alors, c'est les dollars qui dominent. Là, c'est par là que moi je dis, tout ça, ça revient à l'État congolais, c'est pas toujours sa force. C'est lui qui est responsable.
Merci. Merci beaucoup, Simeon. Vous proposez le renforcement de l'autorité de l'État, l'augmentation de la production pour faire assez que la population puisse avoir confiance en la monnaie locale. Nous allons prendre aussi notre invité qui est en ligne, en attendant bien sûr son entrée dans ce studio, et on prendra aussi Destiné, qui est à Kananga, au Kasaï occidental.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Tati Sungani, bonjour.
Bonjour.
En attendant votre arrivée ici au studio de Radio Capi, nous vous souhaitons la bienvenue sur les antennes de Radio Capi. Nous parlons aujourd'hui de la concurrence entre les monnaies, les francs congolais, les monnaies étrangères, surtout dans les zones frontalières. Vous avez suivi les quelques premiers auditeurs. Il y a par exemple Benjamin qui nous a appelé d'ici en province orientale, qui a dit que dans les territoires d'Ariwara, on consomme les shillings ougandais. Vous êtes un économiste. À quand pourriez-vous attribuer, à quand remonte la consommation de ces différentes monnaies dans les zones frontalières? C'est une situation qui est dans ces zones depuis plusieurs années, qui s'est déjà enlisée, où il y a une période qu'on a remarqué la montée de toutes ces monnaies, surtout dans les zones frontalières, M. Tatien Sungani.
Bien, je vous remercie pour l'invitation. Je tiens aussi à vous remercier pour la question. Je ne sais pas si je m'en fais bien entendre.
Oui, c'est bon, allez-y, en
attendant. Bien. Alors, comme l'ont d'ailleurs si bien rappelé les auditeurs et les intervenants de tout à l'heure, la monnaie repose sur la confiance. Et en latin, confiance est fiducia. Je pense que vous savez que le papier monnaie, c'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Elle repose donc sur la confiance. Et la monnaie, en fait, c'est quoi? C'est un stock d'actifs, comme on dit, aisément mobilisables, mais qui sont détenus pour trois motifs. Et la monnaie a également trois fonctions. Alors, avant de passer à la fonction, je voudrais vous faire un petit rappel historique. À l'époque, avant l'existence de la monnaie, il y avait ce qu'on appelait le troc. C'est-à-dire que l'existence économique se faisait au moyen du troc. Si vous avez besoin d'un peu de sel, vous pouvez prendre peut-être des jupes, un peu de mangue, un peu de papaye, vous les changez pour avoir un peu de sel. Mais il se posait un problème lorsque il fallait déterminer le compte, c'est-à-dire, je prends un exemple, j'ai besoin d'un peu de sel, une petite quantité de sel, mais en guise de troc, j'ai un bœuf tout entier. Mais je ne peux pas donner un bœuf tout entier pour avoir un peu de sel. Donc je suis obligé de diviser ces bœufs-là. Or, je n'ai que cela. Donc c'est ce qu'on appelle un problème de compte qui s'est posé. D'où cela a donc amené à l'existence et à la création de la monnaie comme, si vous voulez, intermédiaire de change, unité de compte et réserve de valeur. Ce sont les principales fonctions de la monnaie. Alors je vais schématiser. En tant que réserve de valeur, la monnaie doit vous permettre de pouvoir conserver votre pouvoir d'achat. Cela veut dire quoi? Que si vous avez aujourd'hui 100 dollars ou 100 francs congolais, 5 ans après, les 100 francs congolais doivent vous permettre d'acheter les mêmes marchandises qu'il y a une année, il y a 5 mois ou il y a 6 mois. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle l'unité de la réserve de valeur. En deuxième lieu, la monnaie doit servir d'unité de compte. Par rapport à l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une monnaie doit être décomposable. Donc on a des unités de succession, de compte et de support. C'est une des fonctions de la monnaie. La monnaie également sert d'intermédiaire de change. Cela veut dire que lorsque vous, en tant que Congolais, vous avez besoin d'acquérir des marchandises en Ouganda, vous pouvez amener votre monnaie, vous les changez contre la monnaie de l'Ouganda pour acquérir des biens qui se vendent en Ouganda. C'est ça ce qu'on appelle intermédiaire d'échange. Pas de change, mais d'échange. Donc, ça veut dire l'échange. Parce qu'intermédiaire de change, c'est autre chose. Donc, alors, pour qu'une monnaie puisse avoir une valeur, il faut qu'elle renferme, n'est-ce pas, ces trois fonctions-là. C'est-à-dire réserve de valeur, intermédiaire de change et unité de compte. Alors, mettons, on détient la monnaie pour trois raisons, pour trois motifs. Motif de précaution, motif de transaction et motif de spéculation. Motif de précaution, comme on l'a dit, c'est pour peut-être faire face à d'éventuels ménages, un enfant qui est malade. Motif de transaction, c'est pour affaires. Motif de spéculation, c'est pour les placements éventuels. Aujourd'hui, notre monnaie, le franc congolais, a perdu plusieurs de ses fonctions. Quand vous avez aujourd'hui 1000 francs congolais, aujourd'hui, le 11 février, ces 1000 francs congolais dans 3, 4 jours, ou un mois, ou une année, ne représentent plus la même valeur. Deuxièmement, lorsque vous parlez des frontières, vous savez, depuis longtemps, depuis des millénaires, les sociétés ont procédé à des échanges, notamment frontaliers. Et donc, ces échanges-là ont créé des économies locales. Vous comprenez? Alors maintenant, lorsque une monnaie est faible en termes d'échange, eh bien, elle est en quelque sorte supplantée par la monnaie correspondante. lorsque vous observez la revue des mouvements, c'est un pays extrêmement vaste, vous constaterez qu'au niveau des frontières, le front congolais, non seulement il est sans présent, mais également il est concurrencé par d'autres monnaies. Sont stables, sans plus, comment dirais-je.
On a un problème de ligne, hein. Je pense qu'on pourra bien récupérer Monsieur Tatien Sungani, il est en route pour le studio, ça pose assez de problèmes de qualité, hein. Là où il se trouve, la réalisation pourra le revoir, mais dis-moi, il a pu déjà présenter aux auditeurs le rôle de Monnier pour faire voir que le franc congolais a perdu plusieurs de ses fonctions, ce qui fait aujourd'hui qu'elle se comporte en faiblesse devant les autres monnaies en concurrence, par exemple dans les zones frontalières, avec tout ce qu'il y a comme la porosité de ces frontières. En attendant qu'on puisse les récupérer, nous allons à Kananga, au Kasai occidental, de Simon, bonjour.
Bonjour Pierrot.
Vous avez suivi notre invité, Tati Sungani, qui a essayé d'expliquer les problèmes qui ont fait assez que le franc congolais puisse avoir des problèmes aujourd'hui. Et vous êtes à Kananga. Est-ce qu'à Kananga, vous consommez en dehors du dollar? Est-ce qu'il y a une autre monnaie étrangère qui est en concurrence avec le franc congolais?
Oui, ici chez nous à Kananga, il faut signaler que nous avons deux monnaies qui sont en marche. C'est d'abord le dollar et aussi le franc congolais. Mais le franc congolais a perdu de plus en plus son pouvoir d'achat. Il faut dire que toutes les transactions chez nous ici, mais se font essentiellement en dollars. Notre dépendance au dollar est devenue endémique. Tout se fait en dollars. Même acheter une simple chemise, vous allez 15 dollars. Donc, notre dépendance est devenue très endémique ici au Kasai occidental, précisément à Kananga ici. Moi, je crois.
Destinée, oui, allez-y, qu'est-ce que vous proposez pour valoriser la monnaie nationale?
Mais moi, je crois pour valoriser notre monnaie nationale, l'État doit d'abord rationaliser ses dépenses, aussi mettre l'accélérateur sur la production, parce que la production soutient efficacement la monnaie nationale. En dehors de cela, il faut lutter aussi contre notre politique monétaire qui est toujours expansionniste. Lorsqu'il y a déficit public de l'État, il faut toujours recourir au financement monétaire, ce qui n'est pas bien. Et aussi, enfin, dédollariser notre économie qui est devenue, dédollariser notre économie nationale. Moi, je pense que ce sont là les propositions qui peuvent faire que notre monnaie nationale reprenne sa valeur d'image.
Merci beaucoup, Destiny. Vous êtes à Kananga, au Kasai occidental, Wabelo. Vous êtes à Matadi, bonjour. Wabelo, bonjour. On a des problèmes de ligne avec Wabelo qui est à Matadi dans le Bas-Congo. Nous avons un SMS de Serge Ali Ketal Bumbashi qui dit ceci: les francs congolais en général n'inspirent plus confiance. Ici au Katanga, toute activité se traite en dollars et même les services de l'État fixent leur prix en dollars. Cela a été dit par notre invité qui dit ceci, que plusieurs activités se font aujourd'hui en monnaie étrangère parce qu'il n'y a plus, les gens n'ont plus confiance dans la monnaie locale par rapport à sa stabilité. Vous aussi, vous êtes très nombreux à pouvoir intervenir dans cette émission, comme Joseph qui est en train de nous appeler, de Béni. C'est honneur qui vous, Joseph, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi Destiné qui est à Kananga, qui propose la rationalisation des dépenses de l'État et l'augmentation de la production, et surtout il insiste sur la dédollarisation, comme il a utilisé les termes de l'économie congolaise. Cela veut dire qu'il faudrait que l'État congolais puisse valoriser la monnaie locale en fixant par exemple les taxes en francs congolais, c'est-à-dire qu'en écartant plus les dollars sur le marché, en produisant et consacrer plus les activités économiques dans la monnaie locale pour la valoriser. Est-ce que vous qui êtes à Béni, honneur qui vous avez une autre propos position par rapport à ça sur la valorisation du franc congolais?
Ma réaction, en tout cas, c'est très bien. La République démocratique du Congo va se reconstruire sur tous les plans. Il ne suffit pas de parler au micro, ça passer après la réalisation. C'est-à-dire, donner la parole à l'autre. Vous savez pourquoi notre monnaie est toujours fragile par rapport aux monnaies étrangères? Je viens de venir d'abord voler. C'est le problème d'abord du patriotisme. Si on n'est pas patriotique, c'est difficile de faire de bonnes choses à ce moment-là. Deuxièmement, il faut mettre l'accent sur le coût de civisme. Il faut d'abord que les Congolais soient capables de défendre sa nation et valoriser la monnaie, ça ne sera pas un problème. Par exemple, en Ouganda, si vous n'avez pas le salaire, c'est difficile d'avoir quelque chose dans les magasins. nous les bras, nous les bras ne circulent pas dans le marché. Est-ce que c'est difficile de pratiquer un tel système dans notre pays afin de stabiliser notre monnaie, le franc congolais? Ça me fait mal au cœur quand je vois un Congolais garder 5 millions de dollars sur le terrain dans son porte-monnaie au détriment du franc congolais. Les étrangers ne peuvent pas respecter notre monnaie. C'est comme les étrangers là qui étaient arrêtés à l'aéroport de Ndibou à cause d'avoir déclaré un billet de 2 capas. Regardez les dollars. Tout cela c'est parce que nous, d'abord Congolais, nous ne respectons pas notre monnaie. Mais pour le civil qui fait une avocat, ça nous coûte un peu de faire chose parce que.
Merci. Merci beaucoup, merci Joseph, on vous a suivi, vous insistez sur les civismes, hein, ça vous insistez sur le fait que le pouvoir de l'État doit renforcer la valeur de la monnaie nationale. Si je pourrais bien le demander à notre invité, Monsieur Tatien Songani, il y a le décret loi numéro 177 du 8 janvier 1999 qui interdisait bien sûr en cette période les transactions en monnaie étrangère sur l'ensemble du territoire national. Beaucoup d'auditeurs sont revenus là-dessus pour donner l'exemple d'autres pays dans lesquels, quand vous êtes dans ces pays, vous ne pouvez pas utiliser une autre monnaie qui est la monnaie locale. Vous étiez en train de parler du pouvoir qu'a perdu le franc congolais. Et si on peut parler, comme vous êtes maintenant dans ce studio, bienvenue, les causes de cette faiblesse évoquée de la monnaie nationale qui ont fait assez qu'aujourd'hui, même au niveau des zones frontalières, qu'elles puissent être en concurrence et que les monnaies étrangères puissent prendre le dessus. Quelles ont été les causes qui ont amené à cela, M. Tatien Songani?
Oui, merci. Je m'excuse pour le retard. Je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, je crois que ceux qui ont vécu il y a 15 ans dans ce pays se rappellent que on ne trouvait pas de dollars hein, sur le marché. Il fallait aller à la banque centrale ou dans des banques commerciales pour changer le dollar, le zaïre à l'époque, pour obtenir des dollars pour voyager. Et c'était difficile. Et mais lorsque vous voyagez, les pays dont vous parlez, le pays que vous évoquez, qui n'accepte pas qu'il y ait d'autres monnaies qui puissent avoir cours légal dans leur pays, dans ces pays-là, vous ne verrez pas, lorsque vous vous promenez dans les rues, voir des quantités d'argent déposées à même le sol. C'est-à-dire que nous, la monnaie, c'est un bien, c'est vrai, certes. Mais il appartient au pouvoir public, n'est-ce pas, de donner à cette monnaie la valeur qu'elle requiert. Si déjà les pouvoirs publics ne sont pas capables de donner à cette monnaie de la valeur, à plus forte raison les populations, à plus forte raison les étrangers. Aujourd'hui, dû principalement à la faiblesse de nos exportations, nous n'avons pas suffisamment de devises pour soutenir la monnaie. Comme vous le savez, pour soutenir une monnaie, il faut un matelas.
Les devises.
Oui, parce que les Américains eux-mêmes, lorsque leur monnaie a commencé à se déprécier avec la crise financière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réfugiés vers l'or, parce que le dollar lui-même n'était plus en même de conserver la valeur de la monnaie. Donc vous comprenez qu'il est essentiel pour que les pouvoirs publics puissent prendre toutes les mesures pour soutenir la monnaie. Une monnaie qui se déprécie tous les jours. Aujourd'hui, vous avez 80 000 francs, par exemple, ça vous fait 100 dollars. Deux jours après, les mêmes 80 000 francs, c'est-à-dire le même stock d'argent, ne font plus 100 dollars, ça vous fait 90 dollars. Pour un importateur, par exemple, qui achète ses produits à l'étranger, c'est un appauvrissement, c'est une perte. Alors cet importateur préfère, n'est-ce pas, se réfugier dans des monnaies stables. Tant que la monnaie congolaise sera objet de l'instabilité due notamment à l'inflation, due notamment à l'érosion monétaire, cette monnaie-là sera toujours battue en brèche. Il faut une monnaie, je vous ai dit, les trois qualités de la monnaie, c'est la réserve de valeur, intermédiaire de change et unité de compte. Nous avons une monnaie qui ne se consomme que dans notre pays, en République démocratique du Congo. Quand vous avez 1000 francs congolais, vous ne pouvez pas les changer en Belgique. Vous ne pouvez pas. Donc il y a un problème. Mais par contre, quand vous avez le dollar, vous pouvez facilement le changer en Belgique. Vous avez les yuan, vous pouvez les changer. Donc il y a un problème. Et il appartient au pouvoir public de donner à la monnaie le pouvoir libératoire qu'il doit avoir. Parce que autrement, on peut qu'on peut conjecturer ici. On ne trouvera pas de solution. Alors, je vais prendre un cas typique. C'est le cas qui se passe dans les frontières, je l'ai évoqué tout à l'heure avant que nous soyons interrompus. C'est-à-dire, au niveau des frontières, il y a des échanges. Nous sommes un pays vaste et nous avons 9 voisins. Donc, il est normal qu'il y ait des échanges. Mais je vous assure qu'au niveau, par exemple, frontalier, il n'existe pas d'institution financière ni bancaire qui permette, par exemple, aux francs congolais d'être recyclés. Lorsque vous allez aux frontières, vous verrez des francs congolais tellement usés qu'ils ne peuvent même plus être utilisés. Alors, le gouvernement, la Banque centrale, n'est même pas en mesure, en temps opportun et en temps réel, de recycler cet argent. Mais du coup, que font les consommateurs? Ils se réfugient dans notre monnaie. C'est un comportement tout à fait, on dit, rationnel, cohérent. Lorsque une monnaie n'est plus en même de servir d'intermédiaire de change, de servir de réserve de valeur, on l'abandonne tout simplement. Et puis, aujourd'hui, on parle de la dollarisation. Mais l'État lui-même, il se dollarise. L'État, le gouvernement congolais a perdu lui-même confiance dans sa propre monnaie à tel point qu'il commence à dire que voilà, il y a certaines taxes qui seront payées en francs fiscaux. Mais les francs fiscaux, c'est quoi? C'est en quelque sorte une autre manière d'appeler le dollar américain. Lorsqu'on y regarde de près, il s'agit bel et bien de dollars américains parce que les francs fiscaux sont libellés, sans le dire, en dollars américains. Donc voilà, je suis en train de dire que la monnaie, il y a la production qui sous-tend la monnaie, il y a les exportations qui sous-tend la monnaie, il y a en quelque sorte le matelas financier. Parce que sans matelas financier, la Banque centrale, donc l'État, n'a pas les moyens d'intervenir sur le marché pour soutenir sa monnaie. Et donc, on vit le phénomène que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire eh bien, une monnaie qui n'a plus de valeur, qui ne représente plus rien en soi-même.
Nous allons revenir parce qu'il faudrait aussi parler des conséquences, par exemple dans les zones frontalières, en ce qui concerne les affaires et les avantages liés aussi au pouvoir du franc congolais dans ces zones. Mais en attendant, il y a James qui nous appelle de Goma au nord de vous. James, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à tous les partis de l'Est du pays.
Merci James, on vous écoute. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, vous qui êtes à Goma, qu'est-ce que vous proposez hein, pour valoriser la monnaie nationale par rapport aux autres monnaies comme on a vu au Bas-Congo, on a vu dans les Bandundu et même à l'Équateur, James?
Oui, monsieur le journaliste, vous n'êtes pas sans doute que la monnaie de gestion nationale est à déchéance totale. C'est-à-dire, cela n'est pas de la volonté du gouverneur de la base nationale. C'est-à-dire, le manque d'implication. C'est-à-dire, moi aussi, si je peux venir à un bout. Vous voyez que le dollar nous domine ici, par exemple, ici aujourd'hui, en RDC, ou soit ici à Goma, précisément là où je suis. C'est-à-dire, quoi, le taux est en train de baloter entre 9 francs, 7 francs, 10 francs, 5 francs. Donc, vous voyez que vraiment, il n'y a pas de où ça se fait la stabilité du taux. Donc, c'est quoi? Alors, j'ai fait une interpellation, justement, à toutes nos autorités, qui sont nationales, qui c'est provincial, et s'expliquer vraiment compte tenu de la valorisation de notre monnaie nationale.
Merci, on a un problème de qualité de la ligne avec James Ketagoma, mais dis-moi, il termine son propos, il interpelle les autorités monétaires pour la valorisation de la monnaie nationale. Plusieurs auditeurs ont évoqué cela. Allez, merci, vous êtes à Kailo, c'est dans le Maniema, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous proposez, comme les autres, vous restez dans cette logique de la valorisation de la monnaie nationale?
C'est ça aussi une bonne idée. Parce que ici chez nous, par exemple, ici chez nous, un dollar aujourd'hui, équivaut à mettre ça 30 francs congolais. Donc notre monnaie nationale perd sa valeur, on regrette avec le gouvernement. Or, à l'époque de Kabila paix, un dollar est un valeur avec, si c'est 2 francs, mais aujourd'hui nous sommes où?
Et que, Alimassi, est-ce que ce taux de 1 dollar est égal à 2 francs, comme vous le supposez, et rester comme ça pendant combien de temps? On a des problèmes avec Alima. Si il faudrait vous éloigner de votre poste intercepteur parce que là vous nous suivez presque avec beaucoup de retard, il faut garder votre téléphone à l'oreille. La réalisation va arranger avec vous. Nous revenons à vous, monsieur Tati Sungani. Vous êtes notre invité dans cette émission. Si nous devons revenir au cas des transactions dans les zones frontalières, quels sont les avantages qu'ont les populations ou par exemple ceux qui font les affaires dans les zones frontalières d'avoir uniquement le franc congolais comme l'unité monétaire? C'est là aussi et il est directement aux conséquences qu'ils ont dans leurs affaires quand ils ont toutes ces monnaies, hein, par exemple à Kasumbalesa avec les Kwacha Zambien, par exemple à Sakania, au Bas-Congo avec les points angolais. D'un côté, il y a les problèmes des avantages qu'ils doivent avoir s'ils n'ont que le franc congolais comme monnaie et les conséquences qui ont de leurs affaires quand ils ont toutes ces monnaies en circulation dans ces zones.
Oui, détenir la monnaie nationale, c'est d'abord un problème de souveraineté nationale. Nous sommes Congolais, donc nous devons détenir les francs congolais. Il y a un interlocuteur tout à l'heure, un intervenant qui a parlé de civisme. Donc nous devons, par devoir civique, libérer nos transactions en monnaie nationale. Mais il se pose un problème d'ordre économique et financier, par exemple pour les hommes d'affaires. Qu'est-ce qui pourrait amener ces hommes d'affaires à détenir les francs congolais dès lors que cette monnaie n'est pas convertible en monnaie des pays où ils importent ou ils exportent leurs marchandises? Donc ils sont amenés à trouver des devises pour pallier à la, si vous voulez, à l'impossibilité, si je me permets de m'exprimer ainsi, à l'impossibilité de la convertibilité du franc congolais dans les monnaies qui font l'objet des transactions au niveau des frontières. Parce que lorsque vous avez vos francs congolais, vous êtes à Kasumbalesa, une fois que vous traversez la frontière, vous êtes en Zambie, vos francs congolais ne valent plus rien. Alors il vaut mieux détenir, n'est-ce pas, des devises qui vous permettent d'effectuer vos transactions sans problème. La monnaie refuge, la monnaie qui est la plus sollicitée, c'est le dollar américain. Et donc les importateurs, donc les hommes d'affaires, préfèrent, n'est-ce pas, réaliser leurs transactions en dollars américains, parce que au moins le dollar américain, lui, il ne se déprécie pas, voyez-vous. Alors il faudrait que, d'abord, comme première mesure, je ne sais pas si on peut déjà préconiser à ce niveau-ci les mesures, il faut absolument que le gouvernement puisse stabiliser la monnaie. Vous savez, la monnaie est un des agrégats du cadre macroéconomique qui se, au travers du taux de change, hein, n'est-ce pas? Parce que chaque fois que la monnaie s'érode, ce qu'on appelle le réseau monétaire, cela est dû à une surliquidité des francs congolais sur le marché, surliquidité qui n'est pas malheureusement absorbée par le marché lui-même. Et cette surliquidité provoque des tensions inflationnistes et ampute la monnaie nationale d'une partie de sa valeur. Il se pose bien sûr un problème de gestion des finances publiques et notamment de la masse monétaire. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où on ne sait pas quelle est la masse monétaire qui circule. On ne peut le calculer que de façon approximative. On ne sait pas quelle est la masse monétaire qui est régulièrement émise par la Banque centrale. Alors qu'ailleurs, ce sont les chiffres qui sont disponibles. Aujourd'hui, la Banque centrale n'est pas en mesure, n'est pas capable de nous dire combien d'argent circule et quel est le montant que la banque est en mesure de recycler. Le taux de bancarisation est extrêmement faible, ce qui fait que la plus grande quantité de masse monétaire est détenue par les ménages, au lieu de l'être par les circuits bancaires, les circuits financiers. Tout cela, ce sont des déséquilibres qu'il faut corriger. La conséquence de ces déséquilibres, c'est bien sûr la perte de la valeur de notre monnaie. Et cette perte de la valeur de la monnaie se voit aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur et également dans les frontières. Donc, je crois que nous sommes malheureusement face à un phénomène que nous vivons depuis, disons, 1980, autour de 1980, lorsqu'il y a eu la première démonétisation. Donc, ce phénomène n'a fait que s'accentuer aujourd'hui. Vous ne pouvez pas demander à un opérateur économique aujourd'hui de détenir des francs congolais quand il est incapable d'acheter ses marchandises à l'étranger avec ces francs congolais-là. Donc, il ne peut que les convertir en dollars et acheter. Alors maintenant, puisqu'il est homme d'affaires, et comme je vous ai dit, on détient la monnaie pour trois motifs. Motif de précaution, parce que vous pouvez tomber malade aujourd'hui. Motif de transaction, homme d'affaires, motif de spéculation, placement. Alors, pour les deux types de motifs, les derniers motifs, donc spéculation et transaction, les hommes d'affaires, ils n'ont pas d'autre choix que de pouvoir détenir des dollars pour leur permettre de réaliser leurs transactions. Et c'est le cas des hommes d'affaires, notamment, qui se retrouvent aux frontières avec les pays voisins.
Et si parce qu'on a évoqué des mesures avant de prendre Arsène qui est à Kikwit, à Kodri, qui est à Aru en province orientale, et Kakule qui est à Kalini au Katanga, parce qu'on a évoqué les mesures au début de cette émission, nous avons montré qu'il y a quelques semaines, le gouverneur de la province orientale a annoncé la décision interdisant l'utilisation du shilling, hein, c'est la monnaie ougandaise pour les paiements des taxes de l'État congolais dans les territoires d'Aru et des Mahagi en province orientale. Il a même dit que les Ougandais ne consomment pas notre monnaie, mais nous au Congo, on ne refuse pas les shillings, mais on voudrait bien, quand ils arrivent, et les hommes d'affaires arrivent au Congo, qu'ils puissent échanger les shillings en francs congolais pour payer la taxe, faire les transactions dans cette partie du pays. Mais et là, j'ai aussi évoqué le décret loi 177 de 1999. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le problème de renforcement de la monnaie, comme vous l'avez évoqué, tout le monde sait qu'il est dire. Est-ce que ce problème est-il lié à l'application de toutes ces mesures, à l'application de la loi, ou faut-il aujourd'hui une nouvelle façon de voir l'applicabilité de toutes ces mesures qui existent déjà par rapport à la valorisation de cette monnaie? À quel niveau se suit le problème? Parce que les mesures existent déjà. Faut-il les renforcer? Faut-il les remodeler? Faut-il de nouvelles décisions? Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'aujourd'hui, ce que vous pouvez conseiller aujourd'hui, concrètement, pour qu'on arrive à éradiquer ce phénomène, s'il faudrait utiliser ces termes?
Oui, mais monsieur le journaliste, combien de mesures ont été prises en matière monétaire pour redonner la valeur au franc congolais? Il y a eu beaucoup de mesures. Mais tant que on ne saura pas, on n'aura pas mis sur pied des mécanismes qui permettent une bonne gestion des finances publiques, une bonne administration de la monnaie, eh bien, on prendra toutes les mesures que l'on veut, la monnaie connaîtra le même sort. Donc, il faut résoudre le problème en amont. Comment le franc congolais est-il géré? Ça, c'est au niveau de pouvoir public, au niveau de l'Institut des missions, au niveau du caissier de l'État, au niveau de l'autorité monétaire. Comment gère-t-on le franc congolais? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, que faut-il faire pour stabiliser la monnaie? Il faut une bonne gestion des finances publiques. Il faut une bonne gestion, une bonne circulation de la masse monétaire. Il faut encourager, n'est-ce pas, les banques, comme c'est d'ailleurs le cas, à ouvrir des succursales dans les pays pour permettre un recyclage plus rapide et une flexibilité, une mobilité de notre monnaie. Il faut soutenir la monnaie. On ne peut soutenir la monnaie que par des exportations. Mais on ne peut exporter que quand on a produit. Donc il faut des mesures incitatives qui permettent, n'est-ce pas, à ce qu'on puisse produire.
On va prendre Arsène qui est à Kikwit, à Kodri qui est à Aru en province orientale et Kakule Sefou qui est à Kalemie.
Parole aux auditeurs.
Arsène, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous avez suivi Tati Sondani, notre invité dans cette émission, et les autres auditeurs qui se sont plaints plus, et puis les autres aussi qui ont donné des propositions pour la valorisation du franc congolais. Vous êtes à Kikwit, c'est pas tellement, c'est dans la même province, hein, dans le Bandundu. Nous avons parlé des Kwamout, une localité en face du Congo Brazzaville qui utilise aussi le franc CFA. Qu'est-ce que vous proposez, Arsène, pour qu'on puisse aider les populations qui vivent dans ces zones frontalières à ne pas être confrontées à ces problèmes de plusieurs monnaies?
Ok, merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez. Moi, je voulais dire ceci. Dès l'intérieur de ce pays, on peut trouver des solutions. Parce que la monnaie, en soi, doit avoir une base. Cette base-là, c'est ce que les financiers appellent matelas, je crois. Alors, nous, un pays qui a du diamant, de l'or, du cobalt, du bois, tout ce qu'il y a comme richesse dans ce pays, on se retrouve devant une monnaie qui n'a pas assez de valeur. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Comme l'intervenant, notre invité qui est dans le studio l'a dit, nous devons produire. Mais cette production, on a un... Qu'est-ce que je pouvais dire? On a un tas de richesses qu'on ne sait pas valoriser. Je me demande si aujourd'hui j'allais à la Banque Centrale, je vais trouver combien de lingots d'or, combien de carats de diamants qui peuvent soutenir cette monnaie. Alors, S'il faut valoriser la monnaie, nous devons commencer d'abord par voir un peu notre base. De cette base-là, que nous irons vers la valorisation de notre monnaie. Ensuite, il y a la gestion de la monnaie elle-même. Vraiment, monsieur, moi, je regrette que nos dirigeants, de fois, ils croient peut-être résoudre le problème sur les ondes ou bien dans leurs bureaux. Le problème de notre monnaie, le problème de notre commune ne va pas se résoudre dans les bureaux. Les bureaux peuvent prendre comme ils veulent des mesures, mais tant que la base, sur le terrain, vous ne faites rien, il n'y aura rien. Nous allons continuer à dégringoler du jour au jour, il n'y aura pas de solution.
Merci, Arsène.
On se retourne un peu vers la base. Voilà ce que je voulais dire.
Merci, Arsène. Vous proposez que les mesures qui sont prises par les autorités puissent être accompagnées aussi des mesures de suivi et d'applicabilité sur terrain. À Coudrillo, vous êtes à Haro, en province orientale. Bonjour. Coudrillo, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Haro, en province orientale. Hein, le gouverneur de la province orientale a pris la mesure dernièrement d'interdire la consommation de chewing-gum là où vous êtes. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous utilisez le chewing-gum bondé à Haro?
Oui, moi, je suis en province orientale, mais pas à Haro, mais je suis à Dessine de Victoria.
Pour le moment, vous êtes dans quel territoire?
Pour moi, je suis à Dessine de Victoria, à Bounia.
Vous êtes à Bounia. Allez-y, alors, on vous écoute hein, pour votre intervention par rapport à la valorisation de franc-congolais là où vous êtes.
Mais moi, je ne sais pas, il faut absolument que je suis un petit coup.
Mais on a des problèmes là avec Coudry qui était à Bounia, la qualité, il y a beaucoup de bruit tout autour de lui, on ne parvient pas à suivre ses propos. Kakou Lissefo, vous êtes à Kalemi, au Katanga, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
On
et salut tous les auditeurs de Radio Kalemi qui nous écoutent partout où ils sont.
On vous écoute, Kakou Lissefo.
Ok, mon problème, je voulais aussi faire une contribution par rapport à l'émission en cours. Je vais d'abord vous donner l'exemple de M. Laurent Désiré Kabila et son âme repose en paix. Quand il a pris le pouvoir, vous-même ne vous avez été témoin. Un franc congolais avait la valeur d'un dollar. Après un moment, un dollar qui valait un franc 20 centimes. Maintenant, nous nous demandons quelle politique monétaire que lui prenait par rapport au gouvernement de notre époque ici. Le problème qui est là, dans le même pays, dans chaque territoire de la RDC, il y a un taux approprié. Alors, qu'est-ce que le gouvernement devra faire? Il fallait d'abord mettre fin au cambisme dans notre pays. Que l'échange se fasse seulement à la banque. Alors, pour celui qui veut être cambiste, il doit se conformer réellement au taux officiel de l'État. Ici, à Calais, par exemple, le taux du dollar, par exemple, 1 dollar, 900 francs, mais arrivé au marché, l'article coûtant 1 dollar, pour cet article-là, on va vous demander 1000 francs. Quelle incompatibilité! Merci.
Merci beaucoup, Kakouli. C'est fou, vous êtes à Kalemi au Katanga. Nous allons aussi prendre Lems Kamwanya. Vous êtes économiste. Lems Kamwanya, bonjour.
Bonjour.
Et vous avez suivi cet auditeur et plusieurs auditeurs ont pu comparer la situation du franc congolais à la période de 97-98. Il y a quand même une dégradation de l'activité économique à faire. C'est que la monnaie a dû aussi se déprécier. Si vous voulez aider les auditeurs à comprendre le problème de la monnaie nationale par rapport aux zones frontalières, comme nous parlons bien sûr avec la consommation des autres monnaies locales, et les aider à comprendre les péripéties qu'a connues la monnaie pendant la période 97-98, parce que beaucoup ont évoqué cette période, l'instrument. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire hein, pour apaiser et stabiliser hein, la monnaie locale, nationale?
Ça va. Je vais essayer de répondre dans les termes les plus simples pour permettre à la majorité de vos auditeurs de bien suivre ma petite contribution. D'abord, par rapport à ceux qui sont au niveau des zones frontalières. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que la monnaie d'un pays, elle est considérée, lorsqu'elle veut quitter ce pays, elle est considérée comme une marchandise. À ce moment-là, elle obéit à l'offre et à la demande. Si une monnaie est tellement demandée par rapport à d'autres devises, la monnaie augmente de valeur, on dit que la monnaie s'apprécie. Si une monnaie n'est pas tellement demandée par rapport à d'autres devises, la monnaie se déprécie ou elle perd de la valeur. Je voudrais être plus concret. Supposons ceux qui sont au niveau des zones frontalières, je ne sais pas, à Goma ou à Bunia, qui veulent, après avoir vendu en francs congolais, ils veulent avoir les devises ou les dollars pour aller acheter à l'extérieur. Vous allez constater que vous avez beaucoup de francs congolais entre vos mains et vous cherchez à avoir les devises. Cette recherche est freinée de cette pression qui s'exerce par tous ces opérateurs économiques qui cherchent à avoir les dollars pour aller réapprovisionner leur stock, c'est que les francs congolais perdent de la valeur par rapport au dollar. Ça pouvait se faire aussi inversement s'il y avait autant de dollars à la recherche des francs congolais. Mais la situation elle est différente. Nous avons une quantité plus abondante de francs congolais à la recherche des dollars et notre monnaie perd de sa valeur. Maintenant, si on se réfère à la période 87-88, au moment où on avait lancé la masse monétaire, les francs congolais, ce qu'il faut reconnaître, il n'y avait pas assez, une quantité assez importante de masse monétaire que nous avons actuellement. Aujourd'hui, on constate qu'il y a toujours de nouveaux billets en circulation. Ce qui fait que la Banque centrale est en train d'imprimer et d'accroître la quantité de la masse monétaire en circulation. Je peux prendre un exemple banal. Vous prenez votre tasse de thé ou de café, vous avez calculé la quantité de sucre qu'il y a avec le thé qu'il y a. Si vous ne faites qu'ajouter continuellement de l'eau, vous allez sentir que la teneur en sucre ne sera pas la même. Donc quand vous allez boire, vous allez sentir qu'il n'y a plus assez de sucre. C'est de la même manière avec la valeur de la monnaie. Plus que vous augmentez la quantité de monnaie sans qu'il y ait une contrepartie, la monnaie perd de sa valeur. Donc aujourd'hui, si nous comparons la masse monétaire en circulation, elle est peut-être 40, 50, 100 fois, pourquoi pas 1000 fois plus supérieure que celle qui était dans la période 77-78 au moment où on avait lancé les francs congolais.
James, par exemple, dans les zones frontalières, si nous prenons dans le Bas-Congo, nous avons parlé des Soyo, nous avons parlé des Moanda, où on consomme, où la population utilise le Kwanza zambien, il y a aussi en Aru, en province orientale, à Riwara, on utilise les shillings. Vous parlez vous dites qu'il y a une forte masse monétaire, mais le problème dans ces zones frontalières, c'est que la masse monétaire, le franc congolais n'y arrive pas parce qu'il y a la population qui se plaint, qui n'ont pas presque le franc congolais, ça n'arrive pas. Est-ce là il y a un problème aussi que la masse, les francs congolais n'arrivent pas dans ces zones où il y a un problème du pouvoir de ces francs congolais par rapport à ces monnaies étrangères qui sont dans ces zones LEMS, comme on dit.
Non, le problème qui se pose dans ces zones frontalières, c'est que les personnes qui viennent vous vendre la plupart des produits et des marchandises qu'on rencontre là, ces personnes achètent ces produits dans les autres pays où les francs congolais n'ont pas cours légal. Alors, tant que ces personnes veulent être rassurées qu'après avoir vendu, elles peuvent rentrer pour s'approvisionner, revenir et vendre en RDC, dans le territoire de la RDC, ces personnes préfèrent plutôt vendre dans la monnaie qui leur permet d'effectuer leur réapprovisionnement. Si vous vendez, par exemple, je prends votre achat, vous vendez en francs congolais et que vous devez vous réapprovisionner en Kwacha quand vous allez en Zambie, ce n'est pas avec le franc congolais que vous irez acheter des marchandises en Zambie, il faut avoir les Kwacha. Alors, si sur place à Sakagna, il n'y a pas des agences de la Banque centrale ou des bureaux d'échange agréés qui peuvent vous faciliter d'échanger vos francs congolais en Kwacha, à ce moment-là, les gens préfèrent plutôt vendre en Kwacha qu'en francs congolais. Et on constate que de moins en moins, il n'y a pas de francs congolais sur ce point-là. Et ça devrait interpeller l'autorité monétaire pour que la masse monétaire soit présente, que les banques monétaires nationales soient présentes dans ces zones et qu'on mette en place soit des agences de la Banque centrale ou des banques commerciales ou des groupes d'échange agréés qui peuvent faciliter le dénouement de ces transactions d'échange entre les francs congolais et les autres devises. À ce moment-là, le franc congolais sera considéré comme un attribut de la souveraineté nationale sur l'ensemble de l'étendue du pays. Autrement, nous serons en RDC en train d'effectuer des transactions soit en dollars, en kwacha, je ne sais pas.
Merci.
Tanzanie, par exemple.
Merci, Lens Kamoania, vous êtes économiste. Merci de votre contribution dans cette émission. Charles, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
S'il vous plaît, Charles, le temps que Charles puisse s'éloigner de son poste et récepteur ou soit diminuer le volume, nous allons prendre l'honorable Ezati Mereko. Vous êtes sénateur et vous êtes le premier vice-président de la Commission économique et financière du Sénat. Honorable Ezati, bonjour.
Oui, merci beaucoup. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis effectivement sénateur originaire de l'Ituri, vice-président de la commission économique et financière de la bonne gouvernance.
Honorable, vous êtes originaire de l'Ituri. Il n'y a pas longtemps, le gouverneur de la banque de la province orientale a pris la mesure interdisant les transactions en Chine ou Ougandais, par exemple, les paiements de la taxe. Vous êtes sénateur, vous êtes président de la commission économique et financière. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, aujourd'hui, pour renforcer le pouvoir du franc congolais, par exemple, à l'Ituri, aujourd'hui, pour que la population ne puisse pas recourir aux Chine ou Ougandais, honorable?
Mais je crois que le gouverneur a raison. Nous appartenons à un pays. Nous avons une monnaie autonome. Il n'est pas question de renforcer le pouvoir des francs congolais, mais c'est une question de disponibiliser les francs congolais dans des postes frontaliers pour que ceux qui comptent et qui veulent faire des achats en shilling ou gandé doivent les acheter dans des lobbies du bureau d'échange ou dans des banques en bonne et due forme pour pouvoir faire des approvisionnements à l'extérieur du pays.
Et honorable, vous êtes sénateur, est-ce que vous avez déjà amorcé une démarche dans ce sens pour renforcer ces bureaux d'échange, par exemple, au niveau de la Banque centrale? Est-ce que vous travaillez, vous faites un travail comme ça pour permettre à ce que ces bureaux d'échange puissent être trouvés, par exemple, en province orientale et dans d'autres provinces comme au Bas-Congo, comme au Bandundu, pour permettre à ce que la population qui a besoin du franc congolais puisse l'avoir dans les bureaux d'échange et effectuer ces transactions sans difficulté? Honorable.
Monsieur le journaliste, on ne décrète pas les bureaux d'échange. C'est un commerce comme tout autre commerce. La Banque centrale a édicté des règles pour être admis comme étant bureau d'échange. Il suffit que les personnes le manifestent, remplissent les conditions. Nous pouvons leur faciliter cet agrément au niveau de la Banque centrale pour pouvoir jouer le rôle de bureau d'échange au poste frontalier. Les choses devaient être très simples. Ceux qui manifestent le désir d'être le bureau d'échange dans les postes frontaliers, nous remplissons les conditions, nous faisons des démarches pour eux, ils obtiennent l'agrément, ils font des choses dans les normes. Tel que le gouverneur de la province orientale a raison en interdisant tout ce qui se fait dans le désordre. Nous devons remettre ça dans les normes.
Merci, honorable sénateur.
Ils doivent s'agréer et exercer le métier, acquérir des chiens ougandais dans des conditions prévues par la loi de notre pays.
Merci, honorable sénateur, de votre contribution dans cette émission. Nous prenons le dernier auditeur. Charles, vous êtes à Kinshasa. Charles, maintenant la qualité est bonne sur votre ligne. Charles, bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour Radio Capture, bonjour tous les auditeurs.
On vous prend à la fin de l'émission, il y a beaucoup de bruit tout autour de vous. Allez-y, quelles sont vos propositions, parce qu'on termine déjà l'émission par rapport au renforcement du pouvoir du franc congolais à travers le pays, dans les zones frontalières par exemple.
Parce que ma contribution est celle-ci. Pourquoi, de toute façon, le franc congolais, c'est un problème de...
On a des problèmes sérieux des lignes avec Charles. Nous allons revenir dans ce studio avec vous, M. Tati Soundani. Vous avez suivi les uns et les autres. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, il y a beaucoup de zones géographiques qui pensent à l'union monétaire, à une monnaie unique. La SADC, par exemple, la RDC, membre de la SADC, on pense à une union monétaire en 2016 et monnaie unique en 2018. Vous pensez qu'avec de telles mesures, ça peut aider le pays comme le Congo à se retrouver avec cette faiblesse de notre monnaie si on s'intègre dans une zone avec monnaie unique, ça peut nous aider à nous relever un peu.
Oui, vous devez savoir que l'union monétaire est une des conséquences majeures de l'intégration économique. Il faut d'abord intégrer les économies. Il faut que la RDC s'intègre au sein de l'économie d'Afrique australe. Autrement, cela va provoquer des chocs parce qu'il s'agit de deux zones économiques tout à fait distinctes. Donc il faut homogénéiser, si vous voulez, ces économies et à la fin, donc créer monnaie unique. Ça ne se fait pas comme ça, ça prend parfois beaucoup de temps. Il faut harmoniser un certain nombre d'instruments financiers nationaux et les mettre à des standards internationaux. Tout cela demande, bien sûr, de notre part, de prendre des mesures appropriées pour le faire. Donc, je suis très sceptique par rapport à l'intégration économique de la RDC. Vous savez, les économies d'Afrique australe sont très avancées. Elles produisent ces économies, elles exportent. Elles ont les moyens de soutenir leur monnaie. Alors qu'à notre niveau, nous avons une économie qui est encore primaire, et même les moyens de production sont encore primaires. Et il est difficile de pouvoir concurrencer ces économies-là. Elles risquent simplement de nous absorber. C'est un danger pour nous d'aller vers ces économies de cette manière-ci. Mais si vous voulez que je puisse me résumer en conclusion par rapport à ce que nous devons faire pour redorer, si vous voulez, le blason terni de notre monnaie, d'abord, il faut préconiser des mesures en matière de gestion des finances publiques. Donc, la gestion de la monnaie, la circulation de la monnaie, l'émission de la monnaie. Je pense qu'il y a beaucoup de désordre au niveau de la Banque centrale. Parce que la monnaie qui est injectée, souvent, ne correspond pas aux besoins de l'économie réelle. Ce qui fait qu'on injecte toujours plus que ce qu'il ne faut et on crée artificiellement de l'inflation parce qu'il faut enrichir des personnes. Cela casse, si vous voulez, le bon fonctionnement de l'économie et la stabilité des agrégats macroéconomiques qui soutiennent la monnaie. Deuxièmement, je pense qu'il faut, à mon avis, des animateurs politiques sérieux, parce que pour gérer la monnaie, il faut des animateurs sérieux. Je crois que ça pose le problème de la bonne gouvernance. Et ça, c'est un problème, malheureusement, qui dépasse le cadre économique. Vous savez, je vais terminer en vous donnant une phrase qui est restée célèbre et qui a été prononcée par l'intendant général des finances du roi Louis XIV. Il lui a dit, « Sire, faites-moi une bonne politique et je vous ferai des bonnes finances. » La politique est liée aux finances. Et la finance elle-même est liée aussi aux politiques. Donc si la politique est mauvaise, eh bien les conséquences en matière financière et économique se font sentir. Aujourd'hui, la mauvaise tenue de notre monnaie dépend en grande partie du comportement de nos politiciens, malheureusement.
Merci, Monsieur Tati Sungani. J'appelle à nos auditeurs que vous êtes notre invité. Vous êtes spécialiste en économie, vous êtes analyste socio-économique. Nous disons merci à tous les auditeurs des radios catholiques qui nous ont appelés aujourd'hui, ceux qui sont intervenus, ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion de passer sur les antennes par manque de temps et de l'espace. Ça n'est fini aujourd'hui avec Paroles aux auditeurs, mais on se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine. Cette fois-ci, nous allons parler d'autre chose. Vous savez, nous allons parler des changements des noms des avenues, des rues, des marchés, des salles, des hôpitaux, des boulevards et autres, plusieurs villes de la RDC, ces noms sont modifiés selon les régimes et les autorités en place. Quel est votre avis sur les changements des noms des avenues, des rues, des marchés, des salles, des hôpitaux? Nous allons en parler demain avec un spécialiste en matière culturelle. Parole aux auditeurs, ça n'est fini aujourd'hui. Marie Chantalumba pour la réalisation là. Et Clovis Luboula pour le contact avec les auditeurs. Ben Kabamba, supervise cette émission. La mise en onde a été assurée par Jean-Claude Nkiala. Continuité des émissions sur les antennes des radios Okapi.